RCF.
Comment vivre une célébration chrétienne? Est-ce que c'est une expérience vitale? Et si oui, pourquoi? Le pape François y répond dans un texte intitulé « Un ardent désir » et plus précisément dans une lettre apostolique publiée en juin 2022, « Desiderio, Desideravi ». C'est une lettre qui s'adresse autant aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux personnes consacrées qu'aux fidèles laïcs. Et c'est avec vous, Père Charles-Marie Rigaille, que nous allons la lire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes curé de paroisse à Lille, vous avez étudié à l'Institut Pontifical de Liturgie à Rome. Et cette lettre, elle vous intéresse. C'est une lettre pour redire, je cite, « la beauté et la vérité de la célébration chrétienne ». Est-ce que le pape François vient secouer les chrétiens, ceux qui banaliseraient peut-être ce moment de la messe, ou ceux qui se perdraient dans les fumées de l'encens? C'est quoi l'objectif de cette lettre?
Ah, c'est une grande question, beaucoup de gens se la sont posée. Elle vient un petit peu, de manière surprenante, prendre à rebours les questions de l'époque sur la liturgie. Ça ne vous aura pas échappé, il y a quelques tensions, quelques questions qui se posent. D'ailleurs, le pape François lui-même, dans la première phrase de cette lettre apostolique, dit qu'il a déjà publié un motu proprio, Traditionis Custodes, où il reprend deux, trois choses, il prend des nouvelles règles, il interdit certaines choses. Donc on sent bien qu'il y a une certaine tension, des choses qui sont compliquées dans l'Église. Et avec ce texte-là, il change complètement de point de vue et on pourrait dire qu'il vient prendre les choses par le haut. D'une certaine manière. Donc on est loin des querelles, on est loin d'une prise de position très, très nette et très sévère. Il vient essayer de donner le sens et le fond des choses, vous voyez, répondant à l'appel d'aller en profondeur. Il vient parler de la liturgie, il vient proposer à tous les chrétiens du monde, parce que c'est à eux que ça s'adresse, cette lettre, de réinvestir la liturgie en se posant les bonnes questions. Et c'est là le sens du texte. Il dit plusieurs fois qu'il voudrait qu'on se pose certaines questions et qu'il voudrait qu'on y réponde.
Pour qu'on soit bien clair sur le mot liturgie, est-ce que liturgie c'est pareil que messe, c'est pareil que célébration chrétienne? Est-ce que ça enveloppe quelque chose de plus grand encore?
Alors, dans le vocabulaire du pape François, bien sûr que liturgie, ça dépasse largement simplement le rendez-vous du dimanche matin des catholiques, des chrétiens de manière générale. La liturgie, c'est quelque chose que l'on va vivre en commun pour exprimer notre union à Dieu et à l'Église de manière générale. Donc l'unité du peuple de Dieu qui se tourne vers son Seigneur pour lui rendre ce qui lui revient. Donc vous voyez bien qu'effectivement la liturgie, c'est tout à fait autre chose, et il le dit plusieurs fois dans son texte, qu'un ensemble de règles qu'il faudrait respecter ou de rendez-vous auxquels on est obligé de venir parce que ça fait partie de notre tradition ou de nos usages.
Alors on y reviendra, il revient dire ce qu'est véritablement ce moment. J'ai un ardent désir, c'est le titre de cette lettre. Alors l'ardent désir, c'est celui du pape François, que tout le monde retrouve cette joie de l'Eucharistie, ou est-ce que c'est encore un désir qui est celui du Christ, qui est celui de nous rassembler? Quel est cet ardent désir et d'où vient ce titre?
Alors le titre, moi je l'ai trouvé extraordinairement bien choisi, bien trouvé, parce qu'il dit justement le sens de cette lettre. Le pape François vient remettre les choses entre les mains du Christ, il vient remettre les choses dans la perspective de ce pourquoi on le fait, et plutôt que de rentrer dans les polémiques ou les questions de ce que chacun veut, voudrait, aimerait dans la forme de la liturgie, et vous savez que la liturgie ça touche au cœur de notre foi, et donc c'est vrai que ça suscite de manière naturelle des réactions un peu intérieures. Là, il remet dans le contexte de ce pourquoi est faite la liturgie. Et il vient donc citer cette phrase qui vient de la bouche de Jésus au moment de sa passion, au moment où il s'apprête à célébrer la scène. On est dans le chapitre 22 de Saint Luc, au verset 15, et il dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». Et en fait, le désir, donc c'est pas celui des chrétiens, c'est pas celui du pape François. Le désir, celui qui a le premier désiré nous voir participer à la liturgie, c'est le Christ. Et donc, c'est lui qui invite, et c'est lui qui est le premier à avoir choisi la liturgie. C'est autour du Christ, c'est le Christ qui est le premier acteur de la liturgie. Au-delà, bien avant, les prêtres, les fidèles, ou les querelles pour savoir qui fait quoi au cours de la liturgie. Le premier qui fait, et le premier qui donne toute sa raison d'être à ce que nous faisons en liturgie, c'est le Christ.
Père Charles-Marie, avant qu'on entre véritablement dans le texte, je voudrais que vous nous disiez une lettre apostolique. Est-ce que c'est une invitation aux fidèles, aux croyants, à nos auditeurs, à tout le monde? Est-ce que c'est coercitif? Est-ce que c'est simplement quelques indications? Est-ce que c'est presque une tribune? Est-ce que c'est un pamphlet? Comment c'est quoi le genre de la lettre pour la publication d'un pape?
Alors, la lettre apostolique, c'est un peu large comme titre. Il se trouve que c'est un texte dans lequel le pape met son autorité. Il y a des textes beaucoup plus importants. On verra les encycliques, les textes conciliaires évidemment ont une autorité beaucoup plus grande. Là, le pape François nous offre une méditation, mais il met quand même, enfin, c'est pas un texte qu'il aurait écrit comme une homélie ou un angélus du dimanche sur la place Saint-Pierre. Là, il met le sceau de son autorité apostolique. Et puis, une chose qui n'est pas si commune, c'est que cette fois-ci, contrairement aux autres lettres qu'il a pu écrire où il les adressait à des groupes en particulier, aux évêques ou à d'autres, là, il l'écrit aux évêques, aux prêtres, diacres, personnes consacrées, fidèles laïcs, c'est-à-dire l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc cette lettre, elle est bien adressée à tous. Et c'est pour ça que c'est intéressant que nous en discutions aujourd'hui, parce que en réalité, elle est adressée à vous tous qui nous écoutez. Et l'enjeu, c'est de vous donner aussi un peu l'envie de la lire, de la comprendre, parce que c'est pas un texte compliqué que le pape François aurait fait avec des normes et des règles et des choses que vous ne comprendriez pas. Au contraire, cette lettre, elle est faite pour qu'elle soit lue, qu'elle soit un peu méditée, et en réalité, elle en vaut la peine. Il y a des choses, il y a des pépites, il y a des perles, et on aura l'occasion d'en parler.
Alors justement, on commence avec les premières phrases de ce texte, d'abord simplement parce qu'il évoque la liturgie. Il en parle non pas comme un rite social, mais vraiment comme un lieu, un moment pour lequel tout le monde serait invité. Qu'est-ce qui fait, pour reprendre le titre, le désir ardent, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce désir ardent, eh bien, tout le monde n'y répond pas?
C'est une question à laquelle le pape François ne répond pas non plus. En revanche, il vient dire assez fortement que cette question que vous posez, elle est essentielle et qu'elle fait partie des questions que les chrétiens doivent se poser. En fait, le fait que tout le monde aujourd'hui ne se sente pas invité à cette rencontre que le Christ a voulu doit nous pincer un peu le cœur. Et il met dès les premières pages, hein, on est dans le numéro 5, donc les numéros sont assez petits dans cette lettre. Dans le numéro 5, il dit « Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités. Tous sont invités, il suffit simplement d'apporter l'habit nuptial de la foi qui vient de l'écoute de la parole. » Et alors, et c'est là que je voulais en venir, nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce qu'un instant de repos, sachant que tous n'ont pas encore reçu cette invitation. Vous voyez ? Et en fait, dès le début, il met la liturgie dans une perspective missionnaire. La liturgie est faite pour aller inviter, et inviter largement. Et vous voyez, ça participe à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le pape François vient, en parlant de la liturgie, prendre les choses par le haut, et regarder vraiment le fond des choses en nous disant, mais en fait, pourquoi la liturgie? Pas simplement pour que chacun s'y sente bien, pour que chacun puisse entendre les choses de la manière dont il le souhaite, mais vraiment, cette liturgie, elle nous dépasse, elle vient du Christ, et elle est faite pour le monde et pour l'évangélisation du monde.
Et alors, il a cette phrase, personne n'avait gagné sa place à ce repas. Là, il parle de la dernière scène. Aujourd'hui encore, personne n'a gagné sa place, mais tout le monde est invité.
Exactement. Si nous y sommes, c'est bien par invitation du Christ et c'est donc par grâce. La liturgie, la participation à l'Eucharistie, c'est pas d'abord un devoir, c'est pas d'abord un cadeau qui se ferait à certains ou une dignité que certains pourraient revendiquer. C'est d'abord quelque chose que le Christ nous donne. Et à ce sens-là, le Christ a donné sa vie sur la croix pour tous, pour chacun d'entre nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tout le monde participe à ce salut. Et donc, dès le début, vous voyez, on est dans le numéro 4, quand il dit que personne n'a gagné sa place à ce repas, il redit, hein, il recontemple la scène, la sainte scène, où participent quelques-uns. Vraiment, il y a Jean, il y a Pierre, il y a les autres apôtres, et ils nous aident à les contempler d'une certaine manière. Ils ont préparé cette table, ils ont préparé un repas, ils sont quelques-uns. Et le pape nous dit, en fait, il y en a quelques-uns, mais ces quelques-uns représentent chacun d'entre nous. Eux-mêmes n'avaient pas gagné leur place, eux-mêmes n'en étaient pas dignes. Et d'ailleurs, à chaque Eucharistie, on le redit, nous ne sommes pas dignes. Mais ça ne nous empêche pas d'y aller. Effectivement, le Seigneur nous y invite largement.
Quelle est la responsabilité du chrétien, justement, pour rencontrer ceux qui n'ont pas reçu l'invitation, ceux qui l'ont oublié, ceux qui se sont perdus en chemin dans les méandres de la vie humaine? À quelle responsabilité il nous appelle?
Elle est difficile à estimer, cette responsabilité. En revanche, elle doit nous titiller. Et quand on regarde la liturgie, quand on prépare une liturgie, quand on discute de liturgie, c'est cette préoccupation-là qui doit nous animer. C'est, je crois, ce que le pape veut nous dire en insistant là-dessus. Donc, lorsque on entend les débats sur la liturgie et qu'il est question de comment est-ce qu'on va faire et que parfois ça monte un peu dans les tours parce qu'un tel n'est pas satisfait de telle forme, de telle manière, le pape vient remettre un petit peu les choses à plat en disant, mais attendez, la première question à vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment missionnaire? Est-ce que c'est bien du Christ dont il s'agit? Ou est-ce que c'est de considérations personnelles, de préférences particulières? Mais les préférences particulières, elles ont leur place. Mais au chapitre 10, 20, 45 de la discussion, au début de la discussion, il s'agit d'abord de se mettre à contempler le Christ et de contempler le Christ qui se veut se donner à tous. Et donc voilà, le Christ par cette Eucharistie, par la scène, il a l'ardent désir, hein, c'est le titre de cette lettre, de rétablir la communion. Et c'est vraiment son projet. Et donc il sera satisfait, hein, et c'est le pape qui le dit, ne sera pas satisfait tant que tout homme, toute tribu, toute langue, toute nation n'aura pas mangé le corps du Christ. Et donc cette perspective-là doit nous titiller, doit nous réveiller un petit peu et remet les choses enfin, d'une certaine manière à leur place quand on discute de liturgie.
Cette liturgie, en quoi est-ce qu'elle est un engagement existentiel, si on devait reprendre les mots du pape François?
Alors pour lui, l'engagement existentiel trouve sa source dans ce dont nous avions parlé hier, cette invitation que le Christ fait et à laquelle celui qui vient répond. C'est en fait la participation à la liturgie, à cette prière commune de toute l'Église, c'est d'abord une réponse à une invitation. Et cet engagement existentiel, il ne se vit que s'il y a effectivement dans la liturgie un temps et un moment pour une rencontre. En fait, comme le pape François le dit, alors c'est dans le numéro 10 de Desiderio Desideravi, il dit: la foi chrétienne est soit une rencontre avec lui vivant, soit elle n'existe pas. Et donc cette interrogation, enfin cette remarque du pape François vient remettre très clairement dans le sens même de la liturgie qu'elle est faite, elle est centrée sur la personne du Christ et sur une rencontre à laquelle nous devons être présents. Et alors le terme de la présence, de la participation active revient régulièrement dans cette lettre.
Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un chrétien d'avoir une participation active? On écoute, on est attentif. Est-ce que ça va au-delà même de cela?
Alors oui, je crois. Le pape François le développe un petit peu dans sa lettre, hein, en disant que la liturgie est là pour nous proposer la possibilité de cette rencontre déterminante avec le Christ ressuscité. Donc évidemment, il le redit avec ces mots en disant: mais la liturgie, c'est donc pas un ensemble de règles, de choses à respecter comme il faudrait. C'est pas non plus un moment sympa où on partage des nouvelles ou une prière ou un bon repas. Ça en fait partie, mais ça va bien au-delà de ça. C'est pas non plus le souvenir de la dernière scène dont on se ferait une commémoration entre nous. Il dit nettement: nous avons besoin d'être présents à ce repas. De pouvoir, et c'est à ça que sert la liturgie, hein, de pouvoir entendre la voix du Christ, de pouvoir manger son corps. Nous avons besoin de lui. Et alors, on rencontre le Christ à condition que nous nous mettions dans la peau de ceux qui vivent de cette liturgie. Il se passe quelque chose pour nous dans cette liturgie. Et vous voyez, il encourage et il dit, je le cite au numéro 11, hein, je suis Nicodème qui vient voir Jésus dans la nuit. Je suis la Samaritaine au puits. Je suis l'homme possédé par les démons à Capharnaüm ou le paralytique dans la maison de Pierre. Vous voyez, c'est vraiment, je suis vraiment celui dont il est question dans la liturgie. C'est bien de nous dont il s'agit. Nous sommes appelés à prendre une place. Le Christ est l'acteur principal et nous sommes les acteurs secondaires. Nous ne sommes pas des spectateurs.
Mais est-ce que ça suppose aussi que, comme les disciples, nous voyons dans ce pain rompu, nous voyons véritablement le ressuscité? Il rappelle d'ailleurs que les disciples étaient retournés pêcher des poissons, non pas des hommes, comme il leur avait été demandé sur la mer de Galilée, et que c'est vraiment ce geste du pain rompu, quand le Christ leur apparaît, qui va les guérir de l'aveuglement, de l'horreur de la croix, quelque part. Est-ce que nous aussi, on est invités à croire en voyant le pain rompu?
Oui. Ce passage-là, je le trouve magnifique. Il est tout au début de la lettre. Oui. Le pape François revient sur l'importance de l'Eucharistie dans la vie de manière générale, et là en particulier dans la vie des apôtres, en disant mais en fait, les apôtres, ils ont traversé l'horreur de la croix, de la passion, ils ont vu le Christ mort, ils ont probablement entendu parler de la résurrection, mais ils repartent dans leur vie quotidienne pêcher du poisson. Et c'est à la fraction du pain pour les disciples d'Emmaüs, c'est lorsque Jésus, sur le bord du lac de Galilée, les appelle alors qu'ils sont en train de pêcher du poisson, ils rompent le pain et là, en fait, ils le reconnaissent. Et donc, on peut traverser beaucoup de choses, on peut avoir contemplé, même intellectuellement, des choses. Le pape François redit que la participation à la liturgie n'est pas une adhésion intellectuelle ni un code de conduite imposé par lui. En revanche, c'est cette action liturgique, c'est cette rencontre avec le Christ dans l'action liturgique, le Christ ressuscité, qui nous ouvre le regard, voyez, et qui fait qu'il se rend présent et qui permet de découvrir que le Christ est vraiment présent. En fait, l'Eucharistie est là pour répandre le Christ. Il peut être dans un coin de nos vies, mais par l'Eucharistie, il se répand en nous et bien au-delà de nous.
Est-ce que c'est ce qu'il appelle le mystère pascal? Parce que quand on vous écoute, on se dit, comment se fait-il que parfois à la messe, on passe à côté de ce qui est en train de se dérouler? Si véritablement se passe ce mystère pascal, comment se fait-il que parfois on passe à côté?
Ah, ça c'est le jeu de notre vie. Je crois qu'on passera toujours plus ou moins à côté. C'est même la définition du mot mystère qui est, c'est pas quelque chose qu'on ne peut comprendre, mais quelque chose que nous n'aurons jamais fini de comprendre. Le mystère de l'Eucharistie, du mystère pascal qui se déploie dans la liturgie, dans ce que nous vivons chaque dimanche, évidemment il nous dépasse. Et donc on sera toujours un peu petit face à ce qui nous est présenté, on aura toujours une incapacité à rentrer pleinement dedans. Mais c'est ça la beauté, et c'est ce qui peut nous renouveler et nous inviter à venir à chaque fois. C'est qu'à chaque fois on a quelque chose de nouveau à comprendre. À chaque fois nous-mêmes nous sommes différents, et donc il y a quelque chose de nouveau qui se joue. Mais aussi à chaque fois on peut faire un pas de plus dans la profondeur du mystère. Et heureusement qu'il n'y a pas un jour où on contemplera tout et puis on se dira bah, ça y est, j'ai compris, donc maintenant ça y est, j'ai compris, j'ai plus besoin de revenir puisque j'ai en moi tout ce qu'il faut. En réalité, face à la grandeur de ce mystère-là, on a à contempler, à s'émerveiller. Et la question de l'émerveillement revient dans le texte du pape François. Et il y a toujours creusé. Et c'est ça qui est aussi beau dans la liturgie. Et c'est pour ça qu'on y est tous invités, que cette lettre s'adresse à tous. C'est parce qu'en fait, parfois, ce n'est pas les plus grands esprits qui en découvrent les plus grandes choses. Les enfants, les gens plus simples, et les théologiens, pourquoi pas. Tous ont quelque chose à découvrir et à recevoir de ce mystère-là. Ce n'est pas quelque chose qui s'adresserait à quelques-uns qui auraient compris mieux que les autres.
Dans ce que vous racontez, ça rejoint un peu ce que dit le pape François, parce qu'il dit « On imagine des personnes qui voudraient avoir des informations sur Jésus, eh bien ils n'ont pas d'autre possibilité de vraie rencontre que de voir la communauté qui célèbre. » Et pourtant, on a l'impression parfois que si on invite des personnes à la messe, ça va être tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils voient la communauté qui célèbre et ils n'ont pas le sentiment d'avoir rencontré Jésus.
C'est un défi pour nous. La rencontre dit dimanche, le rassemblement de l'Eucharistie du dimanche, elle est là pour être le témoignage du Christ ressuscité. Alors le pape François le dit là, il l'a dit dans plein d'autres textes, quelle tête faisons-nous lorsque nous allons justement célébrer l'Eucharistie? Si effectivement il y a quelque chose de répétitif, de quelque chose qui ne nous passionne pas, qui ne nous emmène pas et qui nous, où on ne témoigne d'aucune rencontre avec le Christ ressuscité, il est évident que le témoignage tombe un petit peu à l'eau. Et donc c'est une question qui doit nous pousser un peu dans nos retranchements en disant mais alors de quoi témoigne-t-on dans nos liturgies? Quelle est la joie qui transparaît? Quelle est la dignité qui dit ce que nous sommes en train de célébrer? S'il y a effectivement devant nous le plus grand mystère, comment sommes-nous devant cet immense mystère? Nous donne-t-il la joie? Nous donne-t-il la charité? Voilà, c'est à la manière dont on se tient, dont on célèbre la liturgie, qu'on pourra témoigner de quelque chose. Et là, j'anticipe un peu sur la partie finale, mais lorsqu'il s'adresse aux prêtres, à la fin de la lettre, il leur dit « Mais la manière dont vous allez vous préparer, la manière dont vous allez pouvoir, vous, vivre ce mystère, va témoigner aux gens de ce que est le mystère. Et donc, si vous le faites mal, c'est un peu votre responsabilité, parce que si vous faites ça soit scrupuleusement, comme s'il y avait quelque chose d'angoissant, ou au contraire, de manière très légère, comme s'il ne s'agissait de trois fois rien, en fait, vous envoyez un signal qui est faux. »
Mais alors ça veut dire aussi que c'est à la fois un mystère, mais pour autant l'émerveillement que ça peut susciter, c'est pas celui qu'on aurait devant, je le cite, un rite énigmatique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper de fascination, on peut être émerveillé, mais c'est véritablement pour Jésus et pas pour ce qui serait autour. Quel est l'émerveillement auquel on est appelé ?
Là, il répond peut-être à une question qui n'est pas posée. Cette réponse se trouve au numéro 25 pour ceux qui auraient envie de suivre la lettre. Mais il parle de cette importance de l'émerveillement devant le mystère pascal. Et il répond un peu à ceux qui disent mais bon, la liturgie, il faut donc qu'elle soit digne et il faut en faire beaucoup. Parce que comme c'est ce qu'il y a de plus important pour nous qui est en train de se passer, rajoutons du faste, rajoutons des choses qui montrent que voilà, c'est le plus important pour nous. Alors on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, des dorures et plein de choses. Et ça nous redonnera le sens du mystère. Et là, le pape François répond un peu à ça en disant attention, ne vous trompez pas. Le sens du mystère, c'est pas forcément une expression un peu vague qui voudrait dire qu'il faut en rajouter. Un peu énigmatique, où il faudrait que moins on comprend, plus ça a l'air mystérieux, donc plus c'est vrai. Mais au contraire, il dit le mystère, il est là. Il se donne à nous, et c'est pas parce qu'on le rend compliqué qu'il est plus vrai. Le mystère, il se donne dans l'incarnation, et on le contemple par exemple à la crèche, en fait c'est un petit enfant. C'est assez simple. Et donc il nous invite devant ce mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le Dieu qui se fait proche en fait. Et c'est ça le mystère. Donc il ne s'agit pas d'en faire énormément pour le rendre inaccessible, le rendre lointain, distant, etc. Bien au contraire, on le rend présent. Le Christ a voulu se rendre présent, et il a voulu se rendre présent sous une forme simple, celle du pain et du vin consacrés. Donc il y a cette proximité qu'il faut réussir à maintenir, et ça dit quelque chose du pape François qui essaye de proposer un équilibre justement qu'il essaiera de tenir pendant tout le temps du texte en essayant de nous dire mais à la fois effectivement il faut rendre ce mystère visible, donc il s'agit de dire que c'est pas un morceau de pain qui se donne à nous, c'est bien le Christ qui se donne à travers l'Eucharistie, qui nous fait participer à sa mort et à sa résurrection, quelque chose qui est immense, qui doit transparaître. Et à côté de ça, le Christ a voulu se donner par ce morceau de pain. Et donc c'est quelque chose de simple qui nous arrive et qui vient jusqu'à nous. Et cette présence de Dieu qui vient à nos côtés, c'est ça le mystère.
Et on poursuit toute cette semaine un approfondissement de la liturgie, on pourrait même dire une formation liturgique du peuple de Dieu, puisque c'est ce que souhaitait le pape François dans cette lettre apostolique, un ardent désir. Dans cette lettre, dans laquelle il explique aussi tout ce qui peut nuire à la liturgie, tout ce qui déforme le christianisme, ce sont ses mots, tout ce qui peut constituer des poisons. Le pape François met notamment en garde les chrétiens contre des dérives. De quoi il nous parle quand il évoque le gnosticisme ?
Alors, il reprend différents travers, ou en tout cas différents penchants qui détourneraient la liturgie, la manière dont on a de célébrer ensemble les différents mystères, qui les détourneraient de leur objectif. Donc, au début du texte, il revient sur ce qui fait le fond, la raison d'être de la liturgie. Il redit, c'est le Christ qui est au centre, c'est lui qui invite, c'est une communauté qui répond, etc. Et il évoque ces questions en disant... En fait, les problèmes qui pourraient résulter de différents travers, ce que vous venez de citer, hein, le gnosticisme, il cite aussi le néo-pélagianisme, qui sont des termes un peu barbares. Il dit ça, ce sont des problèmes, attention, un autre mot barbare, qui sont avant tout ecclésiologiques. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question de préférence personnelle sur la manière de célébrer quelque chose. C'est que cela dit quelque chose de ce que nous sommes. C'est-à-dire que ça dit quelque chose de l'Église. C'est ça l'ecclésiologie. Hein. C'est cette discipline de la théologie qui s'intéresse au mystère de l'Église, à ce que signifie que d'être une Église, que le Christ ait fondé l'Église. Et donc, les questions, elles sont pas simplement de ce que je préfère, dans quelle langue je veux célébrer, de quelle manière, tourner dans quel sens, ou...
Est-ce qu'on prend la communion dans la main?
Oui, comment je prends la communion, etc. Est-ce que ça dit quelque chose de ce que nous sommes aussi? Donc, est-ce que ça touche au mystère de l'Église? Il y a plusieurs manières de communier qui sont bien et que l'Église permet. Il y a plusieurs manières d'imaginer une posture liturgique qui sont aussi bien. Mais il y a des différents travers. Et c'est là-dessus qu'il entre en remettant les choses dans leur contexte et en citant notamment le Concile, hein, puisque le pape, en écrivant ce texte, s'appuie beaucoup sur deux sources, on pourrait dire. La première, c'est le Concile Vatican II avec son tout premier texte qui concerne la liturgie, qui est Sacro Sanctum Concilium, sur la liturgie, et Romano Guardini. En citant le Concile, il cite le numéro 10 en rappelant que la liturgie est le sommet vers lequel tend toute l'action de l'Église, et en même temps la source d'où découle toute son énergie. Source et sommet de la vie chrétienne, voyez. Et alors, vous savez, quand on est sur un sommet, eh bien, si on va un peu trop à gauche ou un peu trop à droite, eh bien, on bascule. Il y a une ligne de crête qu'il faut arriver à suivre, et le pape essaye de nous faire tenir cette ligne de crête. Et donc là, dans cette partie-là du texte, il nous donne deux travers qui nous font pencher et dévaler du mauvais côté.
Oui, parce qu'en fait, il vient dire que ce n'est pas seulement une question de sensibilité, ça vient dire bien plus que ça. Si on commence à modifier ou à étoffer la liturgie d'une manière ou d'une autre, beaucoup plus profondément, ça vient toucher véritablement la vie de l'Église et ce qu'elle a toujours voulu développer.
Oui, il a des paroles d'ailleurs assez fortes. Hein. Il dit, au numéro 17, « Ces formes déformées de christianisme peuvent avoir des conséquences désastreuses pour la vie de l'Église. » Il ne dit pas simplement des conséquences désastreuses pour vous personnellement si vous tombez dedans. C'est pour toute la vie de l'Église. Vous voyez qu'il a à cœur d'éviter de tomber là-dedans. Et il nous dit, et c'est là que c'est beau et ça nous en fait sortir par le haut, il nous dit « Mais la liturgie est l'antidote le plus efficace contre ces poisons. » Vous voyez, un terme assez fort, hein, poison quand même. Mais il dit, ben voilà, c'est le fait de bien vivre la liturgie, de la vivre en communion et avec l'Église entière, c'est un antidote contre ces poisons.
Alors ces poisons, si on s'arrête dessus, parce qu'il les nomme, il parle de mondanité spirituelle qui est alimentée par deux choses, donc gnosticisme et néo-pélagianisme. On prend deux minutes pour les expliquer un petit peu. À quoi ressemble un gnostique aujourd'hui au XXIe siècle?
Alors le gnostique, on pourrait aussi dire néo-gnosticisme, c'est difficile à dire effectivement. Le pape François nous dit que ce courant-là, en tout cas tel qu'il le présente, hein, c'est quand même des catégories qui sont très bergoliennes, comme on pourrait dire. C'est le pape François qui réfléchit avec ces catégories-là. On le comprendrait peut-être un petit peu mieux en disant c'est le subjectivisme, cette notion de tout est subjectif. Ça dépend de moi. Je suis le propre référentiel. Je suis le référentiel de ce que j'ai autour de moi. Et donc, c'est mon raisonnement qui donne la valeur des choses.
Mais ça veut dire que concrètement, c'est moi, je pense comme ça. Donc, quelque part, j'ai pas moins raison que toi.
J'ai pas moins raison que toi. Et puis, si je ne vois pas l'intérêt de quelque chose, c'est que cette chose n'a pas d'intérêt pour moi. Et donc, on sort de l'Église dans ces cas-là, puisqu'on ne se met plus dans quelque chose qui nous dépasse, que l'on reçoit. On se met dans quelque chose qui m'apporte ou qui ne m'apporte pas. Et donc, ça vient détruire l'Église, parce que justement, du coup, l'Église n'a plus de poids dans ma vie. Je ne fais plus partie de l'Église, puisque c'est moi qui compte. C'est ma personne. Si l'Église m'apporte quelque chose, je prends. Si l'Église ne m'apporte rien, alors je n'ai rien à en recevoir. Et je suis moi-même la référence de ce que j'ai à recevoir. Or, nous, les chrétiens, de manière générale, nous sommes une religion qui a reçu une révélation. Et la révélation est un don. Et elle nous est transmise par des générations. Et ça ne dépend pas de nous. Enfin voilà, on le reçoit comme un cadeau. Mais on ne dit pas, je prends et c'est moi qui, par mon raisonnement, arrive à tout ce qu'il y a là devant moi. En fait, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et que nous allons recevoir et que nous allons transmettre. Et cette question du subjectivisme, elle ne touche pas que la foi. Elle touche toutes les dimensions de la vie quotidienne. Elle est très présente dans notre société. Et c'est pour ça qu'il insiste dessus, pour que justement, on sorte un petit peu de cette dimension autoréférencée et dire, mais en fait, je fais partie d'un corps. Je fais partie d'un corps et donc je peux pas dire, comme l'évoque saint Paul, moi je suis la main, je n'ai pas besoin de toi le pied. On a besoin les uns des autres et ensemble nous formons l'Église et ensemble nous avons une foi que nous recevons.
Mais alors à la fois dans le temps et dans l'espace, à la fois dans cette assemblée avec les autres, si c'est une célébration chrétienne, et à la fois dans le temps. On est un nous dans le temps aussi, c'est pas si facile à comprendre.
Oui, effectivement, on s'intègre dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et on a parfois l'impression aujourd'hui de sortir un peu de l'histoire, parce que tout va très très vite et que chacun se recentre beaucoup sur son individualité propre. Mais l'Église, c'est tout à fait l'inverse en fait. L'Église, c'est comme cette grande famille qui existait avant nous, qui existera après nous, dont nous sommes un membre, qui a à prendre sa place. Et en venant à l'Église, du coup, je ne viens pas chercher quelque chose pour mon bien perso, comme on peut le voir aujourd'hui hein, dans le développement des spiritualités qui viennent d'ailleurs, les spiritualités asiatiques, le développement personnel, la méditation personnelle en pleine conscience, etc. Où chacun, en fait, parfois vient chercher des bonnes choses, hein, mais c'est pour eux. C'est-à-dire c'est moi qui ai besoin de me poser, je ne viens pas participer à quelque chose de plus grand, je ne viens pas m'intégrer dans la louange de toute l'Église, c'est moi qui viens prendre un temps de repos. Et voyez que le pape insiste pour que cette vie chrétienne, ce soit pas chacun qui vient prendre quelque chose pour se nourrir lui, mais c'est bien au-delà de ça, la liturgie, par sa nature même, elle est de l'Église. Et il le dit, la liturgie ne dit pas « je », mais « nous ». Et il reprend, alors là c'est pas entre guillemets, mais c'est une citation directe de quelqu'un qui l'a beaucoup lu et qui l'a probablement vraiment beaucoup inspiré pour écrire ce texte, qui s'appelle Romano Guardini. Comme son nom ne l'indique pas, Romano Guardini est allemand.
Plusieurs oui, fois le dans cite le texte. Beaucoup, oui, oui. Alors dites-nous peut-être un mot sur ce Romano Guardini.
Romano Guardini, alors c'est un théologien, il n'est pas spécialement dans la liturgie au départ, hein, mais il écrit un texte, c'est son premier texte, je crois de mémoire qu'il sort en 1909, L'esprit de la liturgie. L'esprit de la liturgie dans lequel, alors il faut imaginer qu'à l'époque, on est dans la forme extraordinaire. On est au début.
La forme extraordinaire, c'est ce qui existait avant le concile.
Exactement. Mmh. C'est dans le rite tridentin, on pourrait dire ça, en tout cas dans la forme tridentine de la manière de célébrer qu'il y avait avant le concile Vatican II. Et il écrit un texte qui est très très beau, un peu dans ce style-là, c'est-à-dire en prenant les choses vraiment par le haut et en essayant de pousser ses lecteurs qui sont, il écrit de manière assez simple, il écrit avec le cœur pour pousser les gens qui vont le lire, à redécouvrir la beauté de la liturgie. Et ça a inspiré beaucoup de monde. Le pape Benoît XVI s'inspire de Romano Guardini. Il se reconnaît étant très marqué par la pensée de ces théologiens. Et le pape François continue dans la même ligne. Et je reviens là-dessus, chapitre 2 de l'Esprit de la liturgie commence par dire « La liturgie ne dit pas « je », mais « nous ». Et c'est bien ça la vie de l'Église. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans un subjectivisme, parce qu'on est dans un « nous » de l'Église entière. Et donc, on ne peut pas aller vivre sa foi uniquement comme si c'était quelque chose qui ne nous concernait que nous.
Alors, on est dans un nous, mais on est aussi dans un Christ qui nous parle à chacun d'entre nous. C'est là aussi où c'est parfois pas toujours facile de faire la différence. Le Christ s'adresse à chacun d'entre nous.
Mais on tient un équilibre, bien sûr. Parce que le Christ vient nous rejoindre au plus profond de notre cœur et souvent dans le silence, on verra.
Hein, personnellement.
Il y a une véritable présence du silence. Le pape François l'évoque même dans sa lettre, hein, en rappelant l'importance du silence. Mais justement, c'est pas un silence de chacun pour soi. C'est un silence du Seigneur qui vient dire quelque chose à travers cette intériorité. Mais c'est pas chacun se met dans sa bulle. Parce que franchement, les autres ne sont que des choses gênantes autour de moi qui pourraient me perturber. C'est pas mon Jésus à moi qui vient me rejoindre. C'est bien, en fait, ensemble, nous faisons silence parce que nous nous mettons devant un mystère qui nous dépasse. Tous.
Et deuxième point, assez rapidement, mais le néo-pélagianisme, c'est aussi un des travers qu'il évoque, c'est ne compter que sur ses propres forces. Où est-ce qu'il le perçoit, cet élitisme narcissique et autoritaire? Il y va quand même fort, le pape François.
Oui, alors quand il parle de ses travers, il a un peu la même verve que Jésus quand il parle aux pharisiens, quoi. Il y va un petit peu fort et parfois il exagère. En tout cas, sur les caricatures qu'il présente, il y va fort, mais personne, j'espère, ne rentre vraiment dans ces caricatures. En revanche, il met un travers en lumière qui est cette idée que, en fait, c'est parce que je fais les choses bien que le Seigneur va venir me rejoindre. Parce que je respecte bien ce qui est prévu, parce que tout est bien dans l'ordre, parce que j'en suis digne, parce que je me suis confessé avant, parce que j'ai fait ceci bien comme il faut, le Seigneur alors vient se donner.
Or,
le
ça, Seigneur. Ça, non, ce n'est pas ça.
Le Seigneur se donne par grâce. Évidemment qu'on doit tout faire bien. Évidemment qu'il est encouragé de se confesser régulièrement. Mais ce n'est pas par mes propres forces que le Seigneur vient à moi. Ce n'est pas moi qui le tire à moi. C'est le Seigneur qui vient se donner à moi. Et moi, en réponse, j'essaye de faire les choses bien. Et parce qu'il y a une invitation, je réponds à cette invitation. Et ce n'est pas moi qui vais, par ce que j'ai une vie vertueuse et que j'essaye de faire les choses du mieux que je peux, ce qui est tout à fait louable, hein, bien entendu. Hein, il ne s'agit pas de critiquer ça. Mais il ne s'agit pas non plus de penser que c'est parce que je fais les choses bien que la liturgie s'adresse à moi et que le Christ va venir me rejoindre. Le Christ me rejoint de toute façon. Et le fait de faire les choses bien est ma réponse, à laquelle nous sommes tous invités, bien entendu.
Père Charles-Marie, dans cette lettre écrite par le pape François, un ardent désir, il évoque le fait qu'il faille redécouvrir le sens théologique de la liturgie. Alors ça interpelle un peu, quel sens pourrait avoir la liturgie si ce n'est pas celui de la théologie? Pourquoi est-ce qu'il lui faut revenir sur ce qu'est la liturgie et surtout en quoi elle a un sens théologique?
Alors le terme théologique signifiant bien entendu le discours que l'on peut avoir sur Dieu, théologos, nous dit quelque chose de Dieu. Eh bien oui, la liturgie, elle est d'abord là pour nous dire quelque chose sur Dieu, elle est là pour nous mettre en lien avec lui, et évidemment elle n'est pas d'abord là pour nous mettre en lien entre nous, même si elle y participe. Et donc c'est par opposition peut-être au sens sociologique d'un rendez-vous où on trouverait un groupe particulier le dimanche matin, mais c'est bien quelque chose qui nous dit quelque chose de la présence de Dieu et de la présence de l'Église devant Dieu. Et c'est là où c'est important, c'est que c'est pas simplement, comme on l'a déjà évoqué, moi qui vais rendre mon culte à Dieu, mais c'est je participe à toute l'action de l'Église. Et la liturgie, elle est toujours l'action de l'Église. C'est pas le prêtre qui fait la liturgie, c'est pas moi qui fais la liturgie, c'est le Christ qui se donne dans l'Église.
Donc c'est un nous, mais un nous avec.
C'est un nous avec, exactement.
Puisqu'il est question de la liturgie comme source de l'authentique esprit chrétien, là il reprend des mots d'un autre texte qui était un texte conciliaire, et il évoque la place du silence. Je voudrais qu'on s'arrête parce que le silence, ça fait parfois aussi discussion dans les assemblées ou en tout cas avec les croyants, la place du silence. Le pape François, il évoque la place du silence en expliquant que le silence occupe une place d'importance absolue. Pourquoi est-ce qu'il doit venir redire que le silence ça a une place d'importance absolue? Est-ce qu'on l'a oublié parfois?
Alors je pense oui, qu'elle a pu être oubliée, cette place du silence, mais c'est de manière plus large la manifestation de ce que l'on est en train de vivre qui doit se laisser avoir. Et donc évidemment, si on remplit chaque espace avec de la musique, aussi belle soit-elle, on oublie qu'en fait, il y a quelque chose du mystère qui nous dépasse et qui ne peut pas se dire dans des paroles, dans des chants, dans la musique. Et donc, à un moment donné, devant quelque chose de grand, il est nécessaire de que les mots s'arrêtent pour pouvoir entrer dans quelque chose de plus profond. Il y a un adage liturgique que l'on entend souvent, et le pape François le cite, qui se dit ainsi, « Lex orandi, lex credendi ». C'est-à-dire que la manière dont on prie dit ce que l'on croit. Je résume un petit peu, je transforme un petit peu pour que ce soit plus facilement compréhensible. Mais la manière dont on va prier dit quelque chose de notre foi. Et donc le fait de mettre un silence, mais qui, comme le dit le pape François, n'est pas un silence vide, un silence de blanc, ou un silence où chacun se retrouve dans sa bulle pour se retrouver avec lui-même, mais vraiment un silence de contemplation devant quelque chose qui est tellement immense qu'on ne peut que s'arrêter, vous voyez, qui nous laisse l'espace place pour le désir de la conversion, eh bien ce silence-là va dire quelque chose de ce qu'on est en train de célébrer. Et on le voit bien, hein. Dans les liturgies, il y a des silences endormis où en fait c'est parce que quelqu'un cherche sa feuille ou que celui qui doit intervenir pour lire la prière universelle a oublié qu'il fallait prendre le micro. Là, c'est un silence qui est un silence raté. C'est pas un silence de liturgie, ça. En revanche, le pape le cite après le prions, quand il y a la prière d'ouverture. Là, il y a un petit temps de silence qu'il invite à respecter. Après, dans la prière eucharistique, après la communion, là, ce sont des silences habités. Et vous voyez, quand le prêtre, au cours d'une célébration, dit « prions », on pourrait être surpris parce que déjà ça fait 20 minutes qu'on prie, alors pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'on prie maintenant? C'est un petit peu différent, c'est maintenant chacun a prié, on a demandé le pardon du Seigneur pour ses fautes et on a chanté la gloire de Dieu, et là maintenant il recentre tout, il fait ce qu'on appelait autrefois la collecte, il collecte tout ce que les gens ont dans leur cœur, dans leur prière, et il laisse un temps de silence justement pour que chacun puisse se recentrer. Il dit prions. C'est pas le silence qui est la prière, c'est que chacun se met lui aussi à prier. Et cette prière est bien la prière de toute l'Église. C'est pas, même s'il y en a qu'un qui le lit, parce que c'est le prêtre qui préside qui la lit, en réalité c'est la prière de toute l'Église. Et le silence vient donner cette compréhension-là. Si on enchaîne tout de suite, on voit même pas trop pourquoi il vient de dire prions.
Alors dans les silences ratés, comme vous le disiez, il y a aussi le silence qui serait un isolement intime, vous l'évoquiez un petit peu, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de comprendre comment on peut entrer dans le silence, se recueillir et être en même temps avec l'assemblée, être tourné vers le Christ, écouter ce que dit le prêtre. Cette intimité, elle est nécessaire aux croyants?
L'intimité est nécessaire, on l'a parfois un peu oublié, justement. Comme il y avait quelque chose de très personnel dans une certaine manière de vivre la liturgie et la messe avant le concile, où le prêtre faisait quelque chose que les gens n'entendaient pas et ne comprenaient pas, et donc
parce que c'était en latin.
Parce que c'était à voix basse, en latin, et pas fait pour être entendu, en fait. On partait du principe que tout n'était pas forcément fait pour être entendu, il suffisait de savoir ce qui se passait pour qu'on puisse y participer, ce qui est beau aussi. Mais du coup, on avait les gens qui prenaient leur missel, et qui, avec beaucoup de piété, et c'était très bien, hein, mais allaient prier des prières en français dans leur coin, entre guillemets, pour essayer d'être en communion avec ce qui se passait, et c'est tout à fait louable, mais on s'est dit que c'était peut-être plus logique du coup qu'on puisse participer de manière un peu plus directe en entendant et en priant, mais cette dimension de prière intérieure, elle doit rester. Chacun participe à sa manière. On voit bien quand on a des supporters de sportifs, en fait les matchs sont quasiment toujours identiques, ça se joue à quelques points près, c'est toujours les mêmes règles, c'est toujours les mêmes personnes qui jouent, deux joueurs près, finalement ça change pas grand chose. Ce qui fait que ça les passionne, ce qui fait qu'ils sont prêts à y retourner toutes les semaines pour crier de tout leur cœur qu'ils sont contents que ça se passe ainsi ou qu'ils sont déçus que ça se passe autrement, c'est parce que c'est leur équipe qui joue, parce qu'en fait il se passe quelque chose pour eux à ce moment-là. Et la liturgie, elle est faite pour ça aussi. C'est de la même manière notre équipe qui joue, même si c'est pas nous qui sommes sur le terrain, même si c'est quelqu'un d'autre qui fait la lecture, même si c'est quelqu'un d'autre qui parle à ce moment-là, en fait c'est quand même mon équipe. Et donc ça peut me passionner.
Je voudrais qu'on revienne sur ce que dit le pape François à propos des symboles, parce qu'il explique aussi qu'actuellement, ça devient compliqué de comprendre les symboles. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les symboles sont moins présents, et il faut savoir les lire et apprendre à vivre les symboles. Il parle même d'une expérience vitale. Qu'est-ce que ça peut bien être de mieux comprendre les symboles?
Alors, il se pose lui-même la question, numéro 45. Comment pouvons-nous redevenir capables de symboles? La liturgie est fondamentalement symbolique. Et là aussi, on retourne sur des grandes intuitions de Romano Guardini, avec cette dimension du symbole sur lequel je m'arrête une seconde, parce que aujourd'hui le terme symbolique ne veut pas dire ce que dit le pape François.
Donc c'est pas un concept mental, parce que depuis le début il nous dit que ce n'est pas cela. Donc
exactement, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, si je rachète la radio pour 1 euro symbolique, vous allez me dire c'est 3 fois rien et c'est ridicule, et c'est pas ça, ça veut dire que c'est négligeable. dans le mot symbole que le pape François emploie, il y a quelque chose de tout à fait différent sur cette définition-là. Le symbole, c'est comme, on pourrait dire, si je vous l'explique très simplement, c'est le panneau directionnel. C'est-à-dire que il n'est pas la chose, mais il nous assure de la présence de la chose. Vous voyez, si je vois le panneau, si je vois le panneau Paris sur le bord de la route, je sais que en le voyant, je rentre à Paris. Le panneau Paris n'est pas Paris, mais il me dit quelque chose de la réalité. Je suis à Paris. Eh bien, les symboles nous disent la même chose. Ils ne sont pas la chose, mais ils nous disent quelque chose qui n'est pas visible et qui est bien réel. Vous voyez. Donc le symbole est réel.
Mais Père Charles-Marie, on a envie de vous demander, très bien, mais moi, personne ne m'a expliqué la messe. J'ai suivi le catéchisme, j'ai célébré ma première communion, je suis devenue adulte, j'ai grandi dans cette église et aujourd'hui, peut-être que je comprends que la moitié des gestes qui sont pratiqués dans l'église, peut-être que je comprends que la moitié des silences dont vous parliez tout à l'heure, peut-être que chacune des phrases que vous dites, je ne les saisis que une fois sur deux. Comment mieux comprendre les symboles, comme il le dit, comment apprendre à lire et à vivre ces symboles pour nos auditeurs, comment faire?
Alors je cite donc le pape François pour vous répondre. La tâche n'est pas facile car l'homme moderne est devenu analphabète. Il ne sait plus lire les symboles. Alors il y a deux choses, c'est que la liturgie nous forme et ça le pape François le dit très clairement. De participer à la liturgie, d'en être, d'essayer de suivre de tout son cœur, c'est petit à petit, elle nous modèle et on les comprend de mieux en mieux, en fait. Il n'est pas non nécessaire d'avoir fait des grandes études de liturgie, de théologie, pour pouvoir tout comprendre, ou en tout cas pour pouvoir entrer dans ce mystère. Il y a rien que la participation, l'écoute attentive, d'essayer de goûter ce qui se dit et ce qui se fait, nous configure déjà, en réalité, à ce qui se passe, si c'est bien fait. Et c'est là aussi où le pape François encourage les pasteurs, ceux qui organisent la liturgie, à essayer de faire quelque chose qui soit justement formateur, enfin, qui permette aux gens d'entrer dans le mystère. Et c'est l'objectif de cette lettre. Puisque, vous l'aviez dit au début, la lettre, elle est faite pour parler de cette fameuse formation liturgique. C'est destiné, donc je vous l'avais dit, aux prêtres, aux liacres, aux évêques, aux consacrés, aux fidèles laïcs, sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Et il encourage chacun à se former. Et il existe des livres, des formations, il y en a dans les différents diocèses, qui permettent d'aller un peu plus loin. Et c'est ce que j'évoquais déjà. C'est pas parce qu'on a lu 8 livres de liturgie qu'on comprend forcément mieux le mystère. En revanche, de pouvoir creuser au fur et à mesure de sa vie, en fonction de sa croissance intérieure, spirituelle, de sa maturité, et de prendre de temps en temps un livre qui va nous permettre d'aller plus loin, ça fait partie du devoir du croyant. Parce que participer les deux mains dans les poches, avec un regard un peu lointain, à la liturgie tous les dimanches, c'est un peu dommage et c'est un peu pauvre. En fait, on est là pour creuser, pour approfondir, pour essayer de chercher à chaque fois ce que ça signifie, et d'essayer, au fur et à mesure de notre vie, d'aller pas à pas vers le mystère qu'on célèbre.
Sur cette lettre apostolique du pape François dans laquelle il parle de la formation liturgique, alors des croyants mais aussi du prêtre, en revenant sur ce qu'il appelle l'art de célébrer, l'art célébrandi. C'est l'occasion de revenir sur ce qu'est la messe pour un prêtre, c'est sur ce qu'est la liturgie pour un prêtre. Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une obligation à remplir? Il parle même de discipline. Comment est-ce que vous expliqueriez ce qu'est une messe pour un prêtre, vous, Père Charles-Marie Rigaille?
C'est une très bonne question pour un prêtre. Je crois que le pape François, il commence par dire qu'effectivement, la manière de célébrer est quelque chose qui est de la responsabilité de chacun, et pas simplement du prêtre, parce que souvent, le premier réflexe, c'est de dire, mais en fait, la messe, c'est le prêtre qui l'a fait, donc c'est lui qui donne le ton. Il le dit clairement, notamment au numéro 54, l'art célébrandi, donc cette manière de célébrer, est exigée de toute l'assemblée qui célèbre. Mais évidemment, à plus forte raison pour le ministre ordonné, qui lui va recevoir par excellence ce que la liturgie a donné. C'est-à-dire qu'on doit se former à célébrer la liturgie, mais la liturgie elle-même, par la manière qu'on a de la célébrer, nous forme. Et alors le cœur du prêtre, il est configuré à ça. par sa manière de célébrer, il se forme lui-même. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques du prêtre, et en particulier le prêtre diocésain. Parfois, on demande au prêtre diocésain, mais quelle est votre spiritualité? Il n'a pas de spiritualité particulière, mais c'est ce qu'il vit, qu'il le nourrit. Et donc, la spiritualité du prêtre diocésain, eh bien, c'est à la fois la célébration de l'Eucharistie qui le nourrit intérieurement, et la rencontre des gens avec qui il est appelé à être en mission, des gens à qui il est envoyé en mission, qui vont faire sa spiritualité et qui le nourrissent intérieurement.
Mais ça veut dire qu'un prêtre ne va pas célébrer de la même manière au bout de 2 ans d'ordination et au bout de 15 ans?
J'espère pas. De la même manière, ça dépend ce qu'on appelle, mais en tout cas, intérieurement, il a fait son chemin et il célèbre avec ce qu'il est. Et le mystère, en revanche, qu'il a devant lui, il continue de l'approfondir et de le creuser. Enfin, c'est toujours un peu fascinant de voir ce si grand mystère que l'on proclame, qui se réalise devant nous, et de voir qu'en réalité, les conditions pour le réaliser sont si pauvres. Les conditions, je parle du prêtre, mais je parle de la matière, ce simple pain, ce simple vin. C'est ça qui nous fascine et c'est ça qui vient aussi toucher le cœur du prêtre. Parce qu'en fait, face à quelqu'un, quand il sera devant lui dans la rue, bah, il aura la même chose en fait. Il aura quelque chose d'immense, savoir la vie de quelqu'un, et en même temps quelque chose de très simple, la personne qu'il rencontre.
Mais c'est vertigineux de célébrer l'Eucharistie. Comment est-ce qu'on peut se sentir à la hauteur de ce qu'on est en train de vivre soi-même et puis de vivre avec l'Assemblée? Il y a quand même ces paroles que le pape François redit. Réalise, donc fais ce que tu vas faire, imite ce que tu vas célébrer, conforme ta vie au mystère de la croix du Christ Seigneur. C'est lourd, c'est impressionnant.
C'est les paroles de l'ordination, effectivement. C'est lourd et très impressionnant. Et le pire, c'est que, effectivement, dans la vie d'un prêtre qui célèbre quotidiennement l'Eucharistie, au bout d'un moment donné, ben, il y a une forte probabilité, ou en tout cas un fort combat pour que ça ne devienne pas quelque chose d'habituel et de banal. En fait, le fait de faire quelque chose d'aussi grand, si quotidiennement, fait que parfois ça peut devenir, en fait, on peut le faire en pensant à autre chose, on peut le faire comme n'importe qui participerait à la messe, en imaginant la liste de courses qu'il a oublié de faire avant de partir, vous voyez. Et donc, le pape François insiste beaucoup pour que la liturgie soit réinvestie par les prêtres, non pas par les rubriques, en disant qu'il faut absolument que les rubriques soient notre centre d'intérêt. Pas
alors, ce que vous appelez les rubriques, parce que c'est le déroulement de la messe?
Les rubriques, ça vient du latin rubis, qui veut dire rouge, et c'est donc ce qu'il y a dans le missel en rouge. C'est les choses qu'on ne dit pas. Le noir se dit, le rouge ne se dit pas, et en réalité, ce sont les petits commentaires de ce qu'il faut faire. Et donc, quand on parle de quelqu'un de rubriciste, c'est quelqu'un qui est très attaché à ce qui est écrit dans les petites rubriques rouges et qui dit ce que nous devons faire. Et loin de négliger les rubriques, le pape François redit qu'il est bien nécessaire de les respecter. En revanche, il dit qu'elles ne sont pas faites pour elles-mêmes. Elles sont faites pour conduire bien au-delà. La liturgie n'est pas là pour respecter les rubriques. La liturgie est là pour conduire à Dieu. Et donc, le prêtre, lui, en respectant les rubriques ou en célébrant l'Eucharistie, est là pour vivre. C'est vraiment quelque chose de la vie spirituelle, de la vie du prêtre.
Mais il évoque une discipline, hein. C'est un renoncement aux satisfactions faciles et sans effort. Il parle de travail rigoureux. Ça se traduit par quoi très concrètement? Est-ce que c'est on se prépare avant? Est-ce que ça veut dire qu'il y a cette nécessité de rester émerveillé aussi vous-même?
Le pape François insiste beaucoup sur le fait que, en fait, ce n'est pas l'affaire du prêtre. Et donc, ce n'est pas sa personnalité qui doit s'exprimer, ce n'est pas son charisme, ce n'est pas... Voilà. Il y a une certaine pudeur dans la célébration de la liturgie qui fait que ça ne doit pas devenir notre chose, parce que justement, la liturgie nous dépasse. Et là, il insiste beaucoup, et c'est toujours assez beau de voir le pape François osciller entre deux tendances, des tendances qu'on voit assez clairement dans l'Église, et essayer de chercher une ligne de crête pour dire, en fait, oui, la liturgie... Évidemment qu'il doit y avoir quelque chose de chaleureux, évidemment que c'est un pasteur qui parle à son peuple, qui s'exprime, il le dit par ailleurs. Et en même temps, là on est dans le « en même temps », hein, cette liturgie, elle n'est pas faite pour être l'expression d'un charisme particulier. La liturgie, c'est l'Église qui la célèbre, et donc le prêtre doit, parce qu'il se met derrière la liturgie, parce qu'il se conforme à cette liturgie, se faire un peu discret, parce que c'est pas de lui dont il s'agit, évidemment. Et alors, là, le pape insiste dessus, et il fera un peu plus tard dans le texte toute une série de recommandations pour dire ce que le prêtre ne doit pas être, dans une grande tirade assez amusante, et on imagine bien que, bah, évidemment, on doit toujours être entre ces différentes caractéristiques qui sont mauvaises l'une et l'autre, donc pas une austérité rigide et pas non plus une créativité exaspérante, pas un mysticisme spiritualisant et pas un fonctionnalisme pratique, pas une vivacité précipitée, ni une lenteur exagérée. Et il continue comme ça sur une série d'adjectifs.
Une minutie excessive, oui.
Et oui, effectivement, on est toujours en tension pour qu'on ne tombe ni du mauvais côté, ni de l'autre, pour essayer de rester concentré sur ce qui nous rassemble. Et c'est l'enjeu vraiment de cette lettre. C'est pas de donner ce qu'il faut faire, ni de dire ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est de reprendre tout par le haut, ou tout par la profondeur, c'est comme vous préférez, pour que, en visant bien, vous savez, comme pour un phare, hein, quand on vise quelque chose qui est loin, eh bien là, on avance droit. Sinon, on risque, à regarder ses pieds, de tomber trop vite d'un côté ou de l'autre. Et le pape François, dans cette lettre, veut absolument qu'on arrête de regarder ses pieds quand on parle de liturgie, qu'on arrête de regarder aussi son nombril, qu'on lève les yeux pour regarder vers le ciel, puisque la liturgie nous tourne résolument vers le ciel.
Père Charles-Marie, comment est-ce qu'on peut comprendre cette description du prêtre ? Dans quelle mesure est-ce que le prêtre est une présence particulière du Seigneur ressuscité ? Et un peu plus loin, il évoque le prêtre comme étant l'un des modes de présence du Seigneur.
Oui, alors là, le pape François fait directement référence au texte conciliaire qui parle de la liturgie, Sacrosanctum Concilium, qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer. Au numéro 7 de ce texte-là, le concile, les évêques en rédigeant ce texte, parlent des différents modes de présence du Christ dans l'Eucharistie. Évidemment, il est de manière particulière présent dans les espèces eucharistiques consacrées, mais pas seulement. Il est aussi présent dans la personne du ministre, dit le Concile, et il va continuer ensuite. Hein. Il est présent dans l'Assemblée, il est présent dans les Saintes Écritures, il est présent de différentes manières, et le prêtre est une manière qu'a le Christ de se donner. Et donc, le prêtre, lorsqu'il dit les paroles de la consécration, ne parle pas en son nom. Le prêtre, lorsqu'il parle au nom de l'Église et qu'il se tourne vers le Père pour prier, ne parle pas non plus en son nom. Et le prêtre passe son temps à la fois être celui qui tient lieu de Christ, ou lieu tenant, qui donne au monde les paroles du Christ, qui ne sont évidemment pas les siennes, et à la fois porter la prière du monde. Il fait ce lien et cet intermédiaire, ce qui lui donne une place extrêmement belle et importante, une certaine responsabilité aussi, mais aussi un certain détachement, parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est jamais vraiment lui qui est au centre de l'action.
Avant de terminer, je voudrais qu'on puisse regarder les conseils du pape, parce qu'il invite les chrétiens à redécouvrir le sens de l'année liturgique, à redécouvrir ce qu'est le jour du Seigneur, ce qu'est le carême, redécouvrir le sens de l'année liturgique. Ça se traduit par quoi, Père Charles-Marie Rigaille ?
Alors, c'est entrer vraiment dans le mouvement de la liturgie qui se déploie non pas simplement le dimanche, mais tout au long de l'année avec différents points d'attention qu'on appelle les mystères. Alors, vous verrez, il y a l'Ascension, il y a Pâques, etc. En vivant l'année liturgique, en fait, on se met dans les pas des apôtres. Et là, on va retourner au premier numéro, puisque c'est en fait, on est parti des apôtres, le pape part des apôtres avec cette phrase qui est le titre de cette lettre. J'ai désiré d'un grand désir, célébrer cette Pâque avec vous. Elle s'adresse aux apôtres. Et donc nous, en suivant l'année liturgique, on se met dans le pas des apôtres pour comprendre ce par quoi le Christ est passé. Et évidemment, à chaque Eucharistie, nous célébrons le mystère pascal, mais le mystère pascal se déploie tout au long de l'année. Il se diffracte, on pourrait dire, hein, avec des points, des éclairages ou des loupes qu'on met à différents endroits pour essayer de comprendre et d'avancer un petit peu plus dans le mystère. Et cette année liturgique, pour prendre une image, nous, on la vit non pas comme une boucle qui recommencerait chaque année, puisque c'est le cas, hein, une année liturgique reprend, on la vit comme une spirale, c'est comme un petit ressort, où à chaque fois qu'on fait un tour, en fait, on ne revient pas au même endroit, on avance, on approfondit. Et en faisant le tour, on avance au fur et à mesure, et à chaque tour, on fait ce qu'on appelle un pas, qui nous permet d'aller plus loin dans le mystère. Et l'année liturgique, elle est là pour ça, elle n'est pas là pour avoir une vision cyclique du monde, où tout recommencerait à chaque fois, comme le printemps revient, elle est là pour avoir une vision qui justement nous permet, à chaque fois qu'on contemple les différents mystères, de faire un pas de plus pour avancer dans la compréhension de ce que la liturgie veut nous donner, le mystère pascal.
Un immense merci, Père Charles-Marie Rigaille. Vous êtes curé de paroisse à Lille. Vous avez étudié à l'Institut Pontifical de Liturgie à Rome. Et vous nous parliez de cette lettre, un ardent désir, cette lettre apostolique publiée par le pape François en juin 2022. Desiderio, desideravi, une lettre qui s'adresse à tous pour nous redire ce qu'est la liturgie. C'est une lettre qu'on peut trouver très facilement, c'est pas très long, ça se lit bien et ça nous permet de peut-être simplement comprendre mieux ce qu'est la messe et les différentes célébrations chrétiennes. Merci à vous.